Vous écoutez toujours Delirium environnemental, toujours dans la partie revue de l'actualité, revue de presse. On vient d'entendre un groupe français qui s'appelle Baobab et le titre de la chanson, c'est « Viens pas me dire ». C'était le titre de la chanson. Toi, Patrick Bonin, tu vas nous parler de 8 États américains du Nord-Est, en fait, qui veulent faire reconnaître le CO2 comme un polluant. Faut que tu m'expliques.
Étonnant quand même, parce que on se rappelle qu'on a une loi qui s'appelle la loi canadienne en environnement, et que dans cette loi-là, le CO2 n'est pas reconnu comme étant un polluant, ce qui veut dire qu'on n'a pas à déclarer nos émissions, à part ceux qui ont plus de 100 000 tonnes par année, je crois, non, plus de 100 000, en tout cas. Je vous reviendrai là-dessus, je déjouterai de ma nouvelle. Mais au New Jersey, ils ont décidé de rendre ça un polluant, ce qui veut dire que les entreprises, justement, les gros émetteurs sont obligés de déclarer le CO2. Et il n'y a pas juste le New Jersey, il y a 8 autres États alentour. Donc, c'est rendu à l'intérieur même des États-Unis qui n'ont pas signé le protocole de Kyoto. Ils n'ont pas le choix. Il va y avoir même un système d'échange, un peu le même style que les crédits de CO2, qui va s'intégrer au New Jersey. Ce qui est intéressant de voir, c'est que on est juste à côté ici au Québec, puis qu'on n'a même pas de plan d'action pour Kyoto, et qu'eux sont en avance, puis qu'ils n'ont pas signé Kyoto. Donc, c'est bizarre. Et on se demande justement pourquoi on rentrerait pas ça, le CO2, dans la loi canadienne de l'environnement. Eh bien, entre autres, on a comme argument que les êtres humains, les animaux et les plantes rejettent du CO2, donc ça devient compliqué. Mais je veux dire, c'est quand même une raison, tant qu'à moi, qui ne vaut pas tant que ça. Sinon, c'est beaucoup plus, parce qu'une révision de la loi canadienne sur la protection de l'environnement, c'est une option que plusieurs politiciens peut-être redoutent, entre autres, parce que justement, il y aurait plusieurs ajustements qui pourraient arriver, donc ça serait un long processus très lourd et très fastidieux.
Ça ferait même changer les propos d'André Caillé, qui disait, écoutez, le surroi, ça fait du CO2, c'est pas de la pollution.
Pas polluant. Ben oui, nous avait répondu ça avec beaucoup de classe, d'ailleurs. Ben merci beaucoup. Donc, bonne nouvelle du côté des États-Unis. Parfois, ça se peut. Parfois,
States.
Donc, la Californie puis les États du Nord-Est, il y a juste un grand gap dans le milieu. Mais bon, un trou noir peut-être. J'en sais rien. Merci beaucoup, Patrick Bonin, de nous avoir parlé de tout ça. On parle de changement climatique. Parlons de glaciers.
Ben voyons.
Pourquoi pas?
Je vois pas le lien. Vous savez, on accumule les nouvelles sur la fonte des glaciers. La semaine passée ou la deux semaines, c'est le Pérou qui allait perdre tous ses glaciers d'ici 2015. Eh bien, la Chine qui vient de sortir une grosse étude, plus de 30 ans d'études, 24 ans d'études, qui nous montre que le retrait des glaciers de l'Himalaya, vous savez que ces glaciers-là, en fait, c'est le troisième plus gros corps de glaciers après l'Arctique et l'Antarctique. C'est en train de fondre à vitesse grand V et puis on s'inquiète grandement de leur destin puisqu'on dit que d'ici 2050, eh bien plus de 2/3 des glaciers de l'Himalaya auront disparu et 2100, eh bien ça serait l'année fatidique pour la disparition totale des glaciers de l'Himalaya avec évidemment des répercussions flagrantes sur les écosystèmes, surtout sur l'eau disponible pour la population. Vous savez, le Yangtze et le... j'ai la misère avec ma prononciation chinoise, donc en tout cas deux gros fleuves dont la population tire leur eau seront évidemment affectés par cette fonte de glaciers et puis la perte d'eau qui suivra.
Ben merci beaucoup de nous avoir parlé de tout ça. Peut-être en terminant, les Français virent au vert au moins dans leur tête.
Eh bien oui, effectivement, les Français, on a fait une étude tout récemment, Direct Assurance qui a publié les résultats d'une étude où on dit qu'il y a plus de 2/3 des conducteurs d'automobiles qui pensent qu'ils ne polluent pas, alors qu'on sait très bien que près de 50%, la moitié de l'oxyde d'azote provient des automobiles et le quart du dioxyde de carbone proviendrait des automobiles aussi.
Est-ce que tu as dit 2/3 des conducteurs qui ne pensent pas?
Qui pensent qu'ils ne polluent pas ou qu'ils polluent très peu.
Vous n'avez pas compris ma blague.
On reprendra la semaine prochaine, Patrick.
Ah, OK. Bon. En fait, cette étude-là aussi mentionne que 46% des personnes interrogées disent aujourd'hui souffrir de pollution automobile. Alors, ils pensent ne pas polluer, mais ils souffrent de la pollution causée
autres.
Par leur automobile. C'est le phénomène, ce n'est pas moi, c'est les autres, bien entendu. Phénomène intéressant, c'est qu'on s'est aperçu que le groupe le plus touché par ce phénomène-là, à 53%, disons, donc, c'était les 18 à 24 ans. Donc, les gens qui semblent le plus conscientisés par les problèmes de pollution de l'air.
Ce qu'on appelle les jeunes.
Le futur est peut-être plus prometteur qu'on le pense. Et dans le même contexte, on s'aperçoit que 76% des personnes interrogées seraient prêtes à accepter une hausse de 10% des prix de l'essence dans le cadre de, par exemple, si on pourrait utiliser du biocarburant ou d'autres essences plus propres, un peu plus chères.
Merci beaucoup, merci de nous avoir parlé de ces sujets passionnants. Nicolas Mainville, un petit ajout.
Juste faire un petit commentaire avec le rapport des trois mousquetaires qui est sorti, qui nous montrait que les jeunes au Québec s'inquiètent de l'environnement beaucoup plus que, souveraineté, whatever. Si on fait un petit parallèle entre les jeunes de la France et les jeunes d'ici, vous savez, mesdames, messieurs, à la maison qui nous écoutez, vous voyez qu'il y a un lien de plus en plus clair entre les jeunes et la préoccupation pour l'environnement. Donc, il y a de l'espoir.
C'est juste dommage qu'en termes de nombre, on soit beaucoup moins nombreux, mais merci beaucoup
on
pour
s'en
le
vient,
parallèle.
On s'en vient.
Moi, je vous invite à rester à l'écoute de Delirium Environnemental parce qu'on vous fait un super bloc sur les OGM au retour. Et pour tous ceux qui doutent encore de ce que c'est et comment ça marche et comment c'est grave ou pas grave, restez à l'écoute, on vous en parle. Pour tous ceux qui voudraient aller sur notre site Internet, c'est au www.radiodelirium.net. Et je vous dis que les commentaires et questions nous font toujours extrêmement plaisir.
Santé Canada a approuvé 51 types de modifications génétiques dans des plantes destinées à la consommation au Canada. Les cultures approuvées jusqu'à maintenant sont les suivantes. 14 maïs, 13 canola, 5 pommes de terre, 1 tomate, 2 courgettes, 3 soya, 1 lin, 5 cotons, 1 betterave sucrière. Savez-vous ce que vous mangez? À Santé Canada, votre santé, on sent 14 maïs, 13 canola, 5 pommes de terre, 1 tomate, 3 courgettes, 2 lin.
Donc, vous l'aurez compris, on vous parle d'OGM, oui, d'organismes génétiquement modifiés. Dans les discussions qui ont cours sur ces questions-là, en fait, je ne sais pas si le gouvernement de tous les pays du monde s'en inquiète, mais quand on discute avec les gens qui nous entourent de ce que c'est des OGM, il y a souvent des gros débats autour des arguments scientifiques qu'on a pour savoir, oui, mais est-ce que c'est grave? Est-ce qu'il y a des risques qui sont liés à ça? Est-ce que c'est des risques sociaux? Est-ce que c'est des risques sanitaires, etc.? C'est compliqué, ces questions-là, mais il y a... Nicolas, tu nous parles d'un article que tu as lu. Oui, Patrick, tout de suite.
J'aimerais parler à la place de Nicolas.
Ah oui, c'est toi.
Échanger nos articles.
Ah, excusez-moi. Donc, vous me parlez, en fait, OGM, innocuité des OGM sur la santé, on n'en sait rien. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, innocuité, donc c'est le non-impact.
Ça l'affecte pas.
Ça l'affecte pas. Patrick Bonin, tu nous parles de ça, c'est un peu... Je m'excuse, le mot est juste capotant.
Mise en contexte, dans un premier temps, peut-être juste vous informer, si vous n'avez pas encore, que dans le cas des végétaux génétiquement modifiés, eh bien, il y a eu 5000 essais au champ qui ont été effectués depuis 1988 au Canada. Suite à ça, il y a eu une approbation concernant l'innocuité, dont on parlait tantôt. Les aliments étaient reçus, puis il y a 51 végétaux à caractère nouveau qui ont été acceptés. Ça, c'est bien beau. Mais on se demande, justement, quelles ont été les études qui ont été faites là-dessus. Eh bien, il y a une étude qui a été faite concernant les études qui ont été faites sur les OGM. Donc, on a regardé les différentes études. En fait, c'est deux scientifiques de Norvège et Danemark. Ça a paru dans la revue Nutrition and Health. Puis vous allez voir sur notre site web www.radiodelirium.net. Vous allez avoir le lien sur cette étude qui est vraiment intéressante. Eh bien, l'étude a découvert justement qu'il y avait à peine une dizaine d'études qui a été publiées relatives aux effets sur la santé des aliments transgéniques. Il y a plus que 10 études qui ont été faites, mais souvent les études vont être faites par les compagnies, entre autres pharmaceutiques ou de biotechnologie, et ils vont garder les études pour eux. Donc, sur ces 10 études-là, il y en a environ la moitié qui ont été publiées avec des collaborations avec des firmes privées, puis il n'y en a aucune qui a révélé des effets négatifs sur la santé.
Sur ces 5-là qui ont été faites en collaboration
Exactement.
Avec l'industrie.
Sur les 10 études, il y en a 5 qui ont été faites en collaboration avec l'industrie. Sur les 5 autres études, eh bien, on a relevé justement que dans certaines études, il y avait des effets défavorables. Ça a été noté comme ça, puis ce qui est intriguant, ou plutôt alarmant, exactement, inquiétant, c'est que c'est seulement après 10 à 14 jours d'alimentation.
Qu'on constate des impacts.
Exactement, c'est des effets notables, défavorables, mais qui n'ont pas été expliqués.
En 10 et 14 jours suite à l'ingestion
Seulement après 10
à 14
jours d'alimentation
OGM.
Exactement.
Peux-tu me parler de ces effets-là? Donc, on dit 10 à 14 jours, on constate des effets notables. Quels sont ces effets?
Eh bien, ces effets notables, je ne les ai pas devant moi, malheureusement, mais je me ferai un devoir de vous les envoyer la semaine prochaine en ondes. Non, désolé, mais je n'ai pas le temps de passer au travers de toute l'étude.
Ce que ça montre, en fait, c'est qu'on connaît absolument rien des effets sur la santé.
Juste qu'il y a seulement 10 études. Personne ne va prendre en compte, il y a juste 10 études, c'est comme s'il n'y en avait pas. Mm-hmm. Oui, mais ça ne justifie pas qu'on déploie ces technologies-là dans nos champs, puis dans notre alimentation, puis dans nos supermarchés, puis dans nos frigidaires.
Mais donc, c'est ça. Donc, ça prouve encore une fois qu'on a besoin de faire davantage d'études sur les OGM avant d'accepter la dissémination un petit peu partout. Entre autres, au Canada, ici, on en a encore dans les champs. Comme vous avez mentionné tantôt, il y a plus de 5000 essais qui ont été faits.
D'ailleurs, la semaine passée, on vous en parlait, il y a des essais qui se font sur le blé OGM.
Bien sûr.
Paniquant. Partout.
Est-ce que vous connaissez Agrostis tolonifera?
Un instant, c'est la prochaine, hein?
Ben, ça en vient.
Hein? Ben, oui. Donc, Patrick Bonin, ça fait le tour, mais comme tu le disais, donc, tu mettras cette étude-là disponible directement sur notre site internet au www.radiodelirium.net. Et j'en retiens qu'il y a tout lieu de s'inquiéter. Il y a tout lieu de s'inquiéter, tout particulièrement, sachant la prochaine nouvelle, Nicolas Mainville, tu nous parles de pelouse ou de maringouin, toi?
Pelouse.
On va vous parler de pelouse, de belles pelouses, OGM, est-ce possible? Oui.
Ben oui, en fait, Monsanto qui frappe encore avec justement Agrostis tolonifera, qui est une pelouse transgénique qui résiste au Roundup, ce super herbicide qui est ben, évidemment produit par Monsanto quand même. Et puis, ce qu'on a découvert, c'est que ce super gazon utilisé à profusion aux États-Unis pour les champs de golf, les terrains de golf un peu partout aux États-Unis, eh bien, on a découvert que les pollens produits par ce gazon transgénique transportaient dans l'environnement et allaient contaminer plusieurs espèces de végétaux par le biais de son pollen. Et dans un périmètre jusqu'à 21 km, c'est une étude qui a montré que ça pouvait se transporter jusqu'à 21 km autour de la source de ce pollen transgénique. Évidemment, ça laisse se questionner sur, premièrement, l'importance de ce gazon transgénique qui est faite pour que ton golf soit beau, mais surtout sur l'influence que ça a sur les autres espèces végétales. Vous savez qu'aux États-Unis, 42 millions d'hectares, soit 63% du total mondial des cultures OGM étaient aux États-Unis.
Il faut absolument que tu redonnes ce chiffre-là. Combien d'hectares?
42 millions d'hectares. Donc, 63% de la production mondiale d'OGM est aux États-Unis.
On sait que le Canada est le troisième producteur d'OGM, à ma connaissance. Alors,
mais qu'il y a quand même 16 324 parcours de golf. Donc, si on parle d'une répartition assez importante de cette pelouse transgénique un peu partout, les effets sur l'environnement sont notables.
Donc, probablement sur la santé, parce qu'on sait que le Roundup Ready en grand vert dans la rivière, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour la santé des écosystèmes ni des populations qui s'en nourrissent ou s'en abreuvent. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas Mainville, de nous avoir parlé de cette nouvelle, ma foi, je m'excuse, mais paniquante. Oui. Mais comme si ce n'était pas assez, on le disait bien tout à l'heure, du maïs, des OGM, on fait aussi des maringouins transgéniques. Expliquez-moi.
Eh bien, en fait, vous connaissez sûrement la malaria. Excusez-moi. La malaria, qui est considérée depuis longtemps comme une des maladies qui tue le plus de personnes sur la planète, l'OMS considère qu'en Afrique, il y a un enfant qui meurt à toutes les 30 secondes de cette maladie transmise par un moustique. C'est un des plus gros défis de la santé publique dans les pays en voie de développement. Et alors qu'on a réussi à l'éradiquer de plusieurs pays tempérés, la malaria continue à faire plusieurs morts en Afrique, Amérique latine et en Asie. Et pendant longtemps, on luttait avec le DDT, qui est
un pesticide,
et en fait un anti...
Antifoliant?
Un anti-bibite. Tout simplement, tout bonnement. Mais les effets néfastes de ce produit-là sur la faune, insecticide exactement, et particulièrement sur les oiseaux, fait en sorte qu'on l'a banni de plusieurs pays, tout du moins pour l'épandage dans les champs. Alors, comment on va remédier au problème de malaria? Eh bien, la nouvelle solution, elle vient aussi inquiéter certains groupes écologistes. En fait, il y a des chercheurs qui viennent de créer des moustiques génétiquement modifiés de manière à ne pas transmettre la malaria. Alors, l'idée, ça serait que les moustiques seraient relâchés dans la nature, prendraient la place des moustiques qui transmettent la malaria dans les environnements, qui, on le croit, ne seraient pas modifiés, c'est-à-dire toutes choses restant égales par ailleurs, ce qui est vraiment pas évident. Bien entendu, on a tout droit de se questionner sur cette stratégie-là, à un moment où les tests en laboratoire y ont été concluants et où on s'apprête à implanter les moustiques dans des environnements naturels.
J'aimerais juste comprendre bien quelle est la procédure. Donc, on implante des bébites, des moustiques transgéniques dans un environnement en espérant que ceux-là remplacent les autres.
Espérant que ceux-là prennent la place des autres moustiques et prennent les fonctions que ces autres moustiques-là assurent
dans
l'écosystème sans avoir la fonction de transmission de la malaria. C'est à peu près ça. OK? Très complexe, très douteux.
C'est ça qu'on appelle un power trip?
Alors, finalement, il y a des spécialistes du génie génétique, des entomologistes, des spécialistes en santé qui se rencontraient cette semaine pour discuter de ça fermement. Il y a rien qui est tout à fait clair. Pour beaucoup, cette mesure-là est risquée et il peut même être vu comme un pas vers l'arrière, étant donné qu'on sait pouvoir obtenir des bons résultats en modifiant des pratiques de santé toutes simples, en améliorant l'accès aux services de santé primordialement et puis en luttant activement contre la pauvreté. On sait que c'est une maladie qui est étroitement liée à la pauvreté.
En fait, à cause des conditions de vie de ces gens-là et des lieux, des territoires qu'ils habitent.
Exactement. Donc, est-ce qu'il y a vraiment lieu d'utiliser des bébites génétiques?
Non me moleste mosquito. Non me moleste mosquito. Non me moleste mosquito. Retourne chez toi. Je fais la sieste moustique. Arrête un peu ta musique. Ne sois pas antipathique. Ne me pique pas.
Alors, je vous aurais reconnu Joe Dassin, quel précurseur, vraiment, il avait vu juste. On revient, on termine en parlant d'OGM encore une fois, parce que vous savez, malgré que la population du Canada, donc les Canadiens, Canadiennes, sont à 87% pour l'étiquetage donc des OGM, donc le consommateur ou le consommateur puisse faire des choix éclairés et dire clairement aux gens ce qu'ils pensent de leurs produits. Ça continue de poser problème, cette histoire-là. On étiquette toujours pas les OGM. Patrick Bonin, tu m'en parles?
Ben, il y a des choses à dire. On étiquette toujours pas. Je veux pas vous réjouir inutilement, mais il y a quand même un petit pas qui a été fait de l'avant.
Oh.
Imaginez donc. Vous savez qu'on a une ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation au Québec. Son nom étant Françoise Gauthier. Et elle a justement proposé en fin de semaine passée à ses homologues canadiens des autres provinces ainsi que des territoires de faire évoluer le système d'étiquetage volontaire des OGM en vigueur au Canada.
Je vous rappelle
que c'est volontaire.
Ah, volontaire.
Ben, volontaire. Donc, si vous fabriquez si vos aliments ont des OGM et vous les fabriquer et qu'il y en a plus que 5%, ben vous faites de façon volontaire étiqueter ça. Qui va vraiment être, en tout cas, c'est ridicule cette loi. Mais toujours est-il que justement, on avait, suite à la commission sur l'agriculture, les pêcheries, l'alimentation au Québec, la ministre de l'Agriculture avait dit « Je vais faire avancer le dossier. » Non, en fait, la commission disait que vous devriez implanter l'étiquetage obligatoire au Québec. La ministre d'arriver, de dire « Eh bien, on ne le fera pas tout seul sans les autres provinces canadiennes. » Les autres provinces canadiennes sont presque prêts à embarquer, mais ça va attendre jusqu'en 2 juillet 2005 encore. Ça n'avance pas. Au lieu de vouloir mettre ça de l'avant puis de faire une double stratégie en avançant avec les autres provinces, on ne fait encore rien.
Niaisage.
Mimique des ondes de consommer de l'arsenic. Chaque fois que tu guides ma rien
retour à Délirium environnemental. C'est la fin de la première heure, donc la fin de la revue de presse. Donc c'est une partie que j'aime bien, c'est pêle-mêle. En bref, les petites vites cette semaine, messieurs.
Qu'est-ce qui se lance?
On attendait quelque chose, là.
Ben, on n'a pas notre rythme.
Mais messieurs, allons-y quand même. En bref, pêle-mêle cette semaine.
Moi, je me lance avec une fonte de glacier additionnelle. Vous vous rappelez, en 2002, l'Antarctique a perdu un très gros glacier, la taille de la Jamaïque. Il s'appelait Larsen B. En fait, depuis que ce glacier-là est parti, on observe une fonte accélérée des glaciers dans l'Antarctique. En fait, un effritement accéléré des glaciers. On parle de 3 fois plus vite que ce qu'on mesurait avant que Larsen B se détache. Extrêmement inquiétant.
Eh bien, vous savez ce qu'on fait pour ne pas faire d'émissions de gaz à effet de serre? On se lance dans le nucléaire en Chine. Vous m'étonnez. Eh bien, oui, on avait une représentation cette semaine. Monsieur F. Ford, ministre fédéral, qui essayait de vendre des réacteurs nucléaires en Chine. Ça fait 25 ans, même plus que ça, qu'on n'en a pas vendu en Amérique du Nord. On a investi plus de 17 milliards de subventions en énergie atomique Canada depuis 50 ans. C'est pas une bonne idée. Personne n'en veut du nucléaire.
Connaissez-vous le projet LC10? En fait, c'est 8 villes d'Europe qui ont décidé d'inciter ou d'obliger les poids lourds à décharger leur cargaison à un centre de transbordement aux portes de la ville. Quand est-ce que ça s'en vient à Montréal? On ne le sait pas. Alors, il y a plusieurs pays d'Europe qui veulent bientôt obliger les poids lourds à même voyager sur des trains pour décongestionner les routes et les villes.
Une mauvaise nouvelle pour la population du Brésil. On a fait une grosse étude qui nous montre que la pollution des fleuves, des lacs et des lagunes a quintuplé dans les 10 dernières années. On parle de 20 000 zones polluées qui représentent des risques pour la santé. Avant, on avait des déchets jusqu'à 5 km du littoral au Brésil. Maintenant, c'est jusqu'à 50 km.
Bon, on va parler de zones polluées, mais cette fois au Québec, le Technoparc, je sais pas si vous le connaissez, ben écoutez, c'est reconnu comme étant à peu près le site qui déverse le plus de BPC dans le fleuve Saint-Laurent à Montréal. Eh bien, monsieur de Souza de la ville de Montréal, préposé à l'environnement, pas préposé, pardon, je suis un peu méchant, mais
développement durable.
C'est presque ce que je voulais dire. Vous devez rencontrer monsieur Dion la semaine passée pour demander au gouvernement fédéral de s'investir parce qu'il faut qu'on construise un mur, une centrale de filtration, une centrale d'épuration, et ça va coûter 26 millions de dollars pendant ce temps-là, ça coûte tout le temps dans le fleuve.
Pour ceux qui voudraient en savoir plus, c'est entre autres M. Daniel Green de la S'il vous plaît, la Société pour vaincre la pollution qui s'occupe de ce dossier-là, mais ils n'ont pas de site Internet, donc vous ne pourrez pas y aller.
Saviez-vous que la Commission des services publics de l'État de New York vient de décider cette semaine que le quart de l'électricité consommée dans l'État devrait provenir de filières vertes d'ici 2003?
Wow.
En ce moment, on parle de 19% de la part des énergies. En fait, on parle de 19% des énergies vertes en ce moment. Dans la consommation actuelle, on peut monter ça à 25%. Est-ce que le Québec pourra être utile en vendant de l'énergie éolienne? C'est ce que le futur nous dira.
Et vous rappelez que Bennett Environmental poursuit le Conseil de la conservation du Nouveau-Brunswick pour ses atteintes à la réputation de la compagnie. Eh bien, en Colombie-Britannique, il y a une centrale thermique qui est en train de se construire juste à la frontière états-unienne. En fait, la compagnie s'appelle Sumas Energy 2 et puis est en train de poursuivre les groupes environnementaux pour avoir fait le genre de même genre de manœuvre, en fait, entrave à la production de cette centrale-là. Et puis même le gouvernement de la Colombie-Britannique a déjà investi 1,3 million de dollars pour se battre contre l'implantation de cette centrale-là. La population va être traînée en justice à cause qu'elle s'est objectée à ce projet. Donc imaginez, on est rendu là.
Hey, c'est incroyable.
Les
pour tous ceux...
poursuivre les petits paysans qui essayent de se défendre contre la pollution.
Mais surtout sachant qu'ici, on recourt tout particulièrement à ça. La mobilisation citoyenne est toujours avant la mobilisation politique, malheureusement.
Ben, on revient à Bennett parce qu'il ne faut pas l'oublier. On n'en a pas parlé cette semaine. Eh bien, Bennett Environnemental, cette compagnie qui veut implanter, blablabla.
Un incinérateur pour brûler les sols contaminés aux créosotes et aux hydrocarbures.
Bon, mais en tout cas, ils ont perdu quand même 70 cents. Leur action a perdu 70 cents.
Oh,
canadiennes, yeah! Imaginez, la semaine passée, en raison justement de l'avis de M. Mulcair qui voulait qu'on réduise la pollution qui sortait de leur usine à Saint-Ambroise.
C'est ça qu'on paye pour être Bennett.
Pour revenir à ce qui se passe au Nouveau-Brunswick, pour tous ceux qui voudraient s'impliquer, mais surtout appuyer même moralement ou financièrement justement le Conseil de conservation du Nouveau-Brunswick, qui, eux, sont poursuivis par Bennett Environnement, vous pouvez aller sur le site de la coalition Retour à l'expéditeur, et de là, le premier loin en première page, c'est justement pour appuyer l'Union de la conservation de la nature.
Site Internet de la semaine, on se donne ça chaque semaine, un site Internet de la semaine. Pendant qu'on parle de grosses compagnies sages, je vous propose d'aller fortement voir, ça ne dit pas du tout, Transnationale.org, s'il vous plaît, allez visiter. On a toutes les informations environnementales, sociales, économiques de ces grosses multinationales qui font plein de choses pas correctes.
Allez donc voir www.radiodelirium.net. C'est notre site internet et vous allez voir plein de nouvelles, entre autres Brigitte Bardot qui est partie 70 ans. Elle m'appelle Monsieur Chirac. Monsieur Chirac, j'aimerais ça que vous empêchiez tout produit issu de la chasse aux phoques, la vente des chiens et des chats dans les animaleries par petite annonce. Utilisation d'animaux sauvages dans les cirques, l'organisation de corridas, de combats de coqs, etc.
Ah non, mais c'est vrai qu'elle a l'air un peu crackpot, mais au moins elle a l'âge et peut-être le respect même qu'on lui doit pour je sais pas quoi exactement, mais elle peut demander des choses précises à M. Chirac concernant le droit des animaux. Pour ceux qui voudraient faire ça un peu plus sérieusement, je vous invite à aller voir le www.peta.org, People for Ethical Treatment of Animals. Ils font un travail fabuleux. Vous pouvez aussi aller voir le Meatrix, le petit documentaire animé qu'ils ont fait sur l'industrie animale.
Ça, c'était pas la même fille qui n'avait pas besoin de personne dans son Harley Davidson?
Oui, exactement.
Eh bien... On a chacun nos dossiers d'intérêt.
Tout à fait, mais ça en prend pour chacun d'eux.
Plus grosse réserve québécoise en territoire privé. Monsieur Mulcair qui a annoncé ça la semaine passée. Ce qu'il a oublié de dire, c'est que le Parti libéral a repoussé à plus tard que 2005 l'adoption de 8% de terres protégées.
Ah, tu parles de réserve faunique?
C'est pas ça que je disais.
Forêt
d'air protégé.
Hey, c'est ce qui va compléter pour cette semaine la revue de l'actualité, revue de presse pour Delirium Environnemental. Tous ceux qui l'ont fait, donc Hugo Lachapelle, Patrick Bonin, Nicolas Mainville, merci beaucoup. Au retour, en deuxième heure, on a le plaisir d'entendre M. Hamad, ministre des Ressources naturelles, de la faune et des parcs. Ça fait bien des affaires à gérer ça. On va voir comment il s'en tire.